Mon époque, ma radio. Avec Éric Lange.
Et poursuivons, Allô la planète, encore une heure à fabriquer ensemble, où que vous soyez dans le monde, vous nous le racontez, pour nous joindre, participer à l'émission, dire ce qui vous arrive, ce que vous rêvez de faire ou ce que vous avez fait. N'hésitez pas à vous envoyer un petit mail à allolaplanete@radiofrance.com, la page Facebook de l'émission et le répondeur 331 56 40 54 54. 01 56 40 54 54. Lucie à Kuala Lumpur. Ça marche pas pour l'instant. J'égrène les noms que j'ai devant moi. Il y a Caroline qu'on devait joindre au Sri Lanka aussi. On l'a pas. Bon, on va aller en Thaïlande alors.
La planète, écoutez le monde raconté par ceux qui y vivent sur le Move.
Et donc Thaïlande avec Égile, c'est ça Égile, bonjour, bienvenue dans l'émission. Égile.
Oui, salut Eric.
Salut Égile, t'es où en Thaïlande?
Ah. Alors je suis tout au nord, je suis à Thaï, un peu au-dessus de Chiang Mai, à la frontière entre à la côté de la Birmanie en fait.
Ah, c'est la petite ville qui est juste à la frontière là-haut, non? C'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est une petite ville au milieu des montagnes, en fait.
D'accord, ouais, je vois. Et tu peux avoir un visa pour quelques jours pour passer en Birmanie, de là, non? Si je dis, ça marche toujours, ça?
Alors moi, je suis parti avec le visa de 2 mois, mais après, il y a les visas RAN, effectivement, qui s'effectuent ici, quoi, ouais.
Ouais, tu peux, si t'arrives en Thaïlande comme ça, que t'as rien prévu, on peut monter au nord et prendre un visa directement, mais bon, c'est que pour quelques jours, je crois. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la région? Tu te balades? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là-haut?
Oui, voilà, je suis parti il y a un mois et demi à peu près, sans vraiment de date de retour pour l'instant, on va dire. Et puis je me balade, en fait, j'ai fait depuis Bangkok, et puis je suis monté tranquillement vers le nord, quoi, donc...
Sans date de retour, c'est-à-dire tu as pris un billet et pourquoi tu t'es fait virer? Tu as perdu ton boulot? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, j'ai arrêté mon boulot. Et puis je me suis dit que c'était le moment de faire ça. Et puis j'avais du temps devant moi, donc je me suis dit, allez, c'est parti, l'Asie du Sud-Est. Donc je me suis dit, la Thaïlande en premier, ouais. C'est le plus simple.
Ah ouais.
Et puis voilà.
Tu connaissais?
Après, je pars en Birmanie au mois de janvier, et puis après, d'autres pays, quoi.
On verra bien. Hein. Tu connaissais déjà la Thaïlande? C'est la première fois?
Non, c'est vraiment ma première fois en Thaïlande.
T'as vu, c'est facile,
la
Thaïlande.
C'est la première fois en Asie.
T'as vu, c'est tout facile en Thaïlande. Hein. C'est incroyable. Tout se passe bien. Enfin...
Ah bah, tout est facile, ouais. Tout est simple. C'est aucun souci, quoi. Donc... Ça, pour ça, c'est parfait, quoi. Pour commencer un voyage en Asie, c'est idéal.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de soirée épouvantable? Où est-ce que j'ai vu ça? C'est Anka qui m'a dit. Pareil que tu... je sens la blagounette.
Non, mais c'était à Chiang Mai.
Ouais. Vas-y.
C'était une soirée, on va dire, qui s'est terminée tard. Ouais. Donc avec des amis, parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai passé moi une semaine en volontaire dans un centre d'éléphants, et après donc avec les volontaires on a passé une semaine avec certains à Chiang Mai. Ouais. Donc du coup il y a eu quelques soirées qui sont un petit peu messieurs, donc c'est ce qui se passe en Thaïlande, on va dire.
Voilà. Non mais on veut des détails. Alors donc. Non, d'accord, ok. On ne me racontera pas, il y a des oreilles chastes qui écoutent. Mais c'est vrai que ça peut partir vite en vrille, hein, en Thaïlande.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Mais on voit beaucoup d'Occidentaux ici qui sont avec des plâtres, des bandages,
ouais.
Qui ont abusé de beaucoup de choses. Hein.
C'est vrai. Ils te racontent qu'ils sont tombés pendant un trek, mais en fait, pas du tout, c'est des accidents de barre. C'est ça.
Ouais, voilà, ouais.
J'ai vu un Allemand une fois, un touriste allemand qui était ivre mort et qui était monté sur une statue de, tu vois, une fausse statue en plâtre d'un éléphant, mais qui devait faire peut-être 1m50, 2m de haut. Et cet idiot, il saute et il se reçoit pile sur les talons, tu sais, paf! Et il a les deux talons qui ont pété, mais le gars, il était dans un état. Et voilà, et ça t'envoie plein des comme ça. Accident de soulerie. Il y en a des wagons. Parce que c'est pas cher, c'est ça aussi, tu te fais avoir, ouais. Quoi. Ça coûte rien, t'es là, tu fais ce que tu veux. Et ouais. C'est quoi cette histoire de volontariat? C'est quoi, dans une réserve pour les éléphants?
Oui, c'est à côté de Chiang Mai. En fait, c'est à peu près une heure de route au-dessus de Chiang Mai. Ouais. Et c'est une réserve qui est assez connue. Enfin, pas trop en France, j'ai l'impression. Ça s'appelle Elephant Nature Park. Et c'est, ça existe depuis quand même un bon paquet d'années. Et c'est une femme qui s'appelle Lek, qui est assez charismatique, qui recueille les éléphants qui ont été maltraités dans des centres pour touristes, etc., ouais, ouais. Pour les travaux en forêt, pour les lagages. Et donc, c'est que des éléphants qui sont mal en point, donc elle les recueille, il y en a à peu près une cinquantaine. Et donc, c'est vraiment de l'éducation pour les touristes, des touristes qui viennent à une journée juste pour voir les éléphants, bon, pas du tout dessus, hein, c'est pas du tout ça. Et moi, j'y ai passé une semaine en tant que volontaire, donc pour travailler, pour nettoyer les enclos, donner à manger aux éléphants, etc. Ah ouais. Et en plus, ils recueillent aussi les chiens et les chats, donc il y a 400 chiens et 200 chiens en plus, donc c'est du boulot, quoi.
Oui, parce que c'est vrai, quand on est en Thaïlande, on propose souvent des balades à dos d'éléphants, etc. Il y a pas mal de films qui circulent maintenant sur Internet. On voit comment les éléphants sont traités.
Ah oui, bah nous, la semaine dernière, on a eu droit à une heure de film très très dur sur l'éducation des éléphants par les maouts très violents, et puis sur ce que fait l'industrie du tourisme sur les éléphants. C'est catastrophique. Donc,
ouais, il faut pas faire
ça. Il faut pas faire. Vraiment, parfait, quoi.
Il faut pas faire, ouais. Je le dis parce que souvent on n'imagine pas ça un instant. T'es là, t'arrives en Thaïlande, on te propose une balade à dos d'éléphant dans la forêt. Bah pourquoi pas, c'est sympa, ouais. Tu passes un bon moment, c'est vrai d'ailleurs, tu passes un bon moment. Mais t'imagines pas un instant le côté épouvantable. C'est vrai que c'est atroce ce qu'ils leur font subir à ces pauvres bêtes. Je suis pas spécialement qu'aux animaux, mais alors là, quand même, c'est terrible.
Il faut savoir que les nacelles pour touristes qu'on pose sur le dos des éléphants, le dos des éléphants est très fragile en fait. Donc en fait, ils ont très vite le dos déformé en fait. Ça ne peut pas se soigner, quoi.
Et dis-moi, j'ai vu aussi, j'ai parcouru ta page Facebook, tout ça, tu as fait un trek au nord de Chiang Mai, dans les montagnes là-haut, tu l'as fait,
ouais.
Ou pas?
Ouais.
Alors c'est devenu comment?
C'était fabuleux, quoi.
Ouais.
Parce que, bon, après, il faut savoir qu'à Chiang Mai, il y a beaucoup d'agences de touristes qui disent, voilà, on vous emmène dans des vrais villages, alors qu'ils vont faire qu'une demi-heure de route et puis ils vont arriver autour de Chiang Mai. Là, on est parti 3 heures de route. Alors là, on était vraiment à la frontière birmane. Ouais. Et avec un guide Karen. Et puis, on a fait 37 km à pied en 3 jours.
Ouf.
dans les montagnes, dans les villages Karen. Donc, j'ai dormi dans un village Karen, chez une famille, à même le bambou. C'était complètement hallucinant, quoi. Donc, on était 5 et avec un guide Karen, et c'était incroyable.
C'était bien, ouais. Non, parce que parfois il y a des trucs un peu bizarres là-haut. On t'emmène dans un village soi-disant d'une tribu typique, je ne sais pas laquelle, et tu te rends compte que tous c'est des intermittents. C'est des intermittents du spectacle qui se déguisent. Ouais. Et là non, c'était bien. Là. Petit côté aventure.
Ah ouais, non, c'était authentique. Et en plus, en fait, le fonctionnement, c'est une agence qui s'appelle, je vais refaire de la pub, mais s'appelle Pou P2O Eco Travel.
Ouais.
Et eux, en fait, ils ont un accord avec différents villages carrément. Et puis, en fait, c'est une espèce de rotation. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de jalousie entre les villages, ils savent qu'il y aura des touristes, peu de touristes, hein, vont dire. Et voilà, donc il y a une espèce de participation qui est donnée aussi au village pour qu'ils continuent à vivre, en fait. Parce que c'est peu des Birmans qui vivent là-bas. Hein. Donc, c'est que des Karens qui ont l'autorisation, entre guillemets, de la Thaïlande pour vivre là-bas. Alors que c'est pas leur terre.
Oui, c'est des, c'est des réfugiés de Birmanie, non?
C'est une vie très, très difficile.
C'est des réfugiés, non, qui viennent de Birmanie?
C'est ça, ouais. Ouais, c'est des réfugiés depuis très longtemps. Hein.
Oui, ouais, ça dure depuis des dizaines d'années, cette histoire.
Donc,
ouais. Et ça, tu conseilles?
Ouais, c'est ça.
Et puis un dernier petit truc que j'ai vu, tu es allé voir Hunger Games 3 au cinéma en Thaïlande. Olivier, fais pas cette tête-là, tu sais pourquoi il parle de ça? Mais parce que, alors d'abord, tu l'as vu là-bas, tu l'as vu en Thaïlande, c'est ça?
Attends, pardon, j'ai mal compris.
Je dis pas de bêtises, tu l'as bien vu en Thaïlande, le film Hunger Games 3. Tu m'entends plus.
De quoi? Attends, putain, j'ai du mal à t'entendre, en fait.
D'accord, alors je reprends. J'ai vu que tu avais été voir au cinéma Hunger Games 3 en Thaïlande. C'est vrai?
Ouais.
Et ouais. Je dis ça parce que si j'ai bien compris, là-bas, Hunger Games, alors moi, je n'ai pas vu les films, mais il y a une espèce de signe distinctif qui se font avec leurs mains, les rebelles entre eux, là. Il paraît qu'il y a des rebelles. Et il paraît qu'en Thaïlande, ce signe a été récupéré réellement par des manifestants dans les rues, quand il y a eu des manifs, là, récemment.
Ouais.
Ils sont plus ou moins identifiés à ça.
Ouais.
C'est vrai, cette histoire, ouais ?
Complètement. Ouais, c'est complètement ça. Et donc, il y a eu une polémique avant que le film sorte ici, c'est qu'il a failli être censuré, mais il ne l'a pas été. Mais par contre, le signe, il ne faut surtout pas le faire. Même que sur l'occidental ou thaïlandais, il ne faut surtout pas le faire en ville. Ça, tu te fais arrêter tout de suite, quoi. Ça, c'est vraiment, le signe est prohibé, c'est juste pas possible. Par contre, ce qui était assez étonnant, c'est que, bon, après, dans la salle, il y a quasiment pas de taille. Il y avait des occidentaux, bon, après, voilà.
Ouais.
Parce qu'ils ont fait le signe qu'ils vont aller voir le film. Mais ouais, ils ont vraiment récupéré ça.
Ouais, non, c'est étonnant comme quoi une œuvre de fiction, quoi, rien à voir avec rien, devient tout à coup, est utilisée tout à coup, un film pour les jeunes en plus,
ouais.
est utilisée par des manifestants. Voilà, c'est assez étonnant cette histoire. Je ne sais plus trop quoi penser de ça. Et ouais, on voyait les photos des types.
Ah,
qui Bon, bah, cher Aigil, bonne route à toi, poursuis bien, donc on va t'avoir régulièrement. Toi, si t'es parti sans date de retour, tu fais partie de ceux qui vont être là dans longtemps. T'as des...
Bah écoute, j'espère.
T'as une cagnotte, t'as un peu de sous avec toi pour tenir combien de temps? Ou sinon, il va falloir travailler.
Pardon?
Tu peux tenir combien de temps, là, sans travailler?
Quelques mois, on va dire une bonne année.
Une bonne année, ouais, c'est bien. Ouais. Et après, tu iras comme tout le monde en Australie pour recharger la cagnotte. Donc, tu vas faire barman à Sydney, toi. Je le sens à un moment ou à un autre.
Voilà. Voilà. On verra bien si je rentre ou si je rentre pas. C'est une autre question, ça.
Je te dis le parcours classique, c'est on claque toute la thune en Asie du Sud-Est. Après, on va en Australie. On bosse quelques mois comme barman et rebelote un an. C'est reparti. C'est bien, c'est pas mal.
Oui, j'en ai rencontré, c'est comme ça.
C'est le nouveau truc. Bon, ben Gilles, merci d'avoir pensé à nous. Bonne route, amuse-toi bien. Puis si tu passes en Birmanie, pense à nous, ça nous fait...
Ouais, merci à vous.
Ciao, à la prochaine, Égile. Bye.
Ça marche.
Dans un instant, dans un instant, Caroline avec nous. Caroline, mais t'es en France, Caroline ?
Oui. Bonjour, Eric.
Bonjour, Caroline. Je pensais que t'étais au Sri Lanka encore. Non, c'est juste que t'es amoureuse du Sri Lanka.
Exactement. Bon. Donc, je suis malheureusement basée dans notre bonne, vieille et chère France.
Ah là là. Bon, bouge pas, on en reparle dans un instant. J'ai été voir ton blog, il y a quelques sujets qui ont attiré mon œil sur le Sri Lanka. Et puis on sera avec Brefni qui revient de son expédition pour nettoyer le sommet de l'Elbrus. Are you such a dreamer to put the world to rise? I stay home forever. We're tuned to always makes a fire. I lay down the tracks, sandbag and hide. April showers and two
la planète, première émission mondiale de proximité sur le Move.
Et parmi les pays qui sont ouverts récemment, il y a le Sri Lanka. Caroline, comment t'as rencontré ce pays? Comment t'as rencontré l'île du Sri Lanka? C'était quoi?
Alors, la première fois que je suis allée au Sri Lanka, c'était en 2008. C'est ma tante, en fait, qui m'a emmenée au Sri Lanka, qui était mon cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans.
Sympa.
Voilà, hyper sympa. Et en fait, elle a connu ce pays via Philippe Gilbert, qui a vécu le tsunami donc il y a 10 ans, ouais. Et qui a écrit un livre dessus qui s'appelle Les larmes de Ceylan et qui est très poignant, que je recommande vraiment à lire. Et en fait, donc elle travaillait avec Gilbert et puis avec Philippe Gilbert, pardon. Mm-hmm. Et du coup, donc elle est allée au Sri Lanka et puis elle a tellement aimé qu'elle m'a emmenée là-bas en 2008. Et ça a été à mon tour d'avoir le coup de cœur pour le pays.
Parce que quand je dis que ça s'est ouvert récemment, bon, c'est pas si récent que ça, quoique, j'ai plus les dates en tête, mais longtemps, le Sri Lanka était fermé au tourisme, plus ou moins, parce qu'il y avait une guerre civile là-bas.
Exactement. D'ailleurs, en 2008, c'était encore la guerre, tu vois, quand j'y suis allée.
Ah oui, il y avait encore des conflits.
Et voilà, il y avait toute une partie de l'île qui était absolument inaccessible.
Tout le nord, non, c'était au nord. Enfin, c'était quoi? C'était un conflit interreligieux, c'est ça? Où je dis
C'est pas interreligieux, c'est interculture. T'as deux peuples en fait qui habitent sur l'île. Tu as les Singhalais et les Tamouls, et les Tamouls revendiquaient leur indépendance, et donc du coup, ça a créé la guerre civile entre ces deux peuples. Et finalement, pendant la guerre civile, toute la partie nord et la partie est de l'île, jusqu'à Arugambe, n'était pas accessible.
D'accord. Et puis ça s'est arrangé à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont fini par se mettre d'accord. Maintenant, il n'y a plus de tension, plus rien, tout va bien?
Alors, c'est une situation qui est un petit peu compliquée aujourd'hui, parce que on va dire que les consultants de l'ONU n'ont pas vraiment accès au terrain pour savoir ce qui s'est réellement passé, comment la fin du conflit a été faite. Les Tamouls disent qu'il y a eu un génocide, les Singhalais disent que non. Donc du coup, il y a encore des tensions entre ces deux peuples. Beaucoup entre les Tamouls et le gouvernement. Mais après, quand on y voyage sur place, on le ressent pas. C'est vraiment plutôt quand on y vit, et plutôt du côté Tamoul, ils se sentent massacrés, ils se sentent lésés.
Ouais. Le Sri Lanka, pour tous ceux qui ne s'y situent pas, c'est une île qui, alors j'ai envie de dire une petite île, parce qu'à chaque fois elle est collée à l'Inde, une petite île qui est à l'ouest de l'Inde, en bas, au sud, mais c'est pas si petit que ça finalement, non? Enfin, je ne sais pas du tout. En fait, ça a l'air petit, comme je te dis, parce que c'est collé à l'Inde qui est immense à côté, donc on a toujours l'impression, on a toujours envie de dire la petite île, mais finalement, ça doit être assez grand quand même.
Non, c'est assez grand. Si tu veux faire vraiment le tour du Sri Lanka, il faut plusieurs jours pour le faire, surtout que les distances en plus sont longues. Quand on s'organise ses vacances là-bas, il faut bien prendre en compte le temps de transport. Mais c'est pas une petite île où tu fais le tour à pied en 2 heures.
Et donc toi, tu découvres ce Sri Lanka en 2008 et depuis, tu y retournes régulièrement?
Alors voilà, donc en 2008, moi j'ai beaucoup aimé ce pays, et puis en 2011, donc j'avais terminé mes études, je commençais à avoir un petit peu de sous, et donc je me suis dit que j'allais repartir, donc je suis repartie avec ma tante encore une fois, où là on a fait une partie de l'Inde, on a fait le Rajasthan, et puis on s'est dit, pourquoi pas retourner au Sri Lanka, puisque de toute manière on n'a pas pu faire toute une partie du pays qui était donc à l'époque interdite. Et donc voilà, donc on y est retourné en 2011. Et puis moi à partir de là, je me suis dit mais c'est vraiment génial. Enfin, je passe des bons moments, les gens sont sympas. Donc il n'y avait pas encore beaucoup de tourisme à cette époque. Et donc j'y suis allée régulièrement. Je me suis fait des amis sur place. J'ai amené des amis aussi parce que du coup tout le monde m'entendait parler du Sri Lanka, mais on était assez curieux de découvrir. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet. En français, du moins sur ce pays. Et c'est comme ça que les Tongs au Sri Lanka sont nés.
D'accord, voilà. Les Tongs au Sri Lanka, c'est le blog que tu as réalisé sur le Sri Lanka. Qu'est-ce qui te plaît là-bas, en deux mots, par rapport aux autres pays que tu connais?
Alors, la sérénité. Il y a une espèce de calme. En fait, c'est une partie de l'Inde, mais sans le côté où ça grouille, où c'est pollué. Voilà, le Sri Lanka, c'est très vert, c'est très nature, donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis c'est un pays aussi où tu as plein de choses à faire. Si tu aimes faire de la plage, de la montagne, voir des animaux, ou alors visiter, faire des choses un peu plus culturelles, aller en ville, aller dans la jungle, enfin voilà, il y a vraiment y a une grande diversité d'activités.
Et c'est facile, enfin je veux dire, c'est un pays qui, où on voyage facilement, il n'y a pas de problème pour le transport, les logements, tout ça.
Oui, ouais. Alors les transports, c'est vraiment pas cher. Les bus publics, ça coûte peut-être 2-3 euros pour parcourir des distances énormes. L'hébergement, depuis l'ouverture au tourisme, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, dans le sens où je trouve que les budgets sont vraiment très chers et qu'on n'a pas forcément la qualité par rapport au prix, contrairement à d'autres pays en Asie, par exemple. Ouais, c'est un petit peu leur souci. Enfin, c'est comme tous les pays qui s'ouvrent assez brutalement au tourisme, ils veulent leur part du gâteau et les prix flambent et sans qu'il y ait vraiment de raison.
Quand tu dis cher, c'est par rapport aux autres pays d'Asie ou même par rapport à nous? Je sais pas, c'est combien par exemple pour une nuit?
Par rapport aux autres pays d'Asie. D'accord. Mais tu peux trouver quand même facilement des chambres qui sont pas terribles, là, 40 dollars, 35 euros la nuit. Ouais.
D'accord. Mais bon, tu conseilles quoi? Belle balade, c'est un pays tranquille, on peut aller partout.
Voilà, ouais, non, c'est un pays qui est vraiment chouette, même le nord du pays. Donc moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, vraiment l'extrême nord, du côté de Jaffna. Et aujourd'hui, il faut faire une demande d'autorisation pour y aller. Mais même cette zone-là, il n'y a aucun problème, tout est safe. On va dire que le seul danger éventuellement potentiel, ça serait pour les femmes seules. Moi, c'est mon avis vraiment personnel. Hein.
J'allais y venir justement. J'ai bien vu ça, je me suis dit, mais il y a un gros bug là-dedans, semble-t-il, quand on lit ton blog, c'est que tu déconseilles même carrément aux filles toutes seules de se balader là-bas. Il y a une espèce de harcèlement permanent. Il y a une...
Exactement. Ouais. Ouais, en fait, après, moi, c'est aussi le fait que j'ai connu le Sri Lanka avant, pendant la guerre, au début du développement touristique, et puis après. Mais j'ai vraiment vu les choses s'envenimer au fur et à mesure. L'année dernière, j'ai subi du harcèlement déjà dans la rue, alors qu'avant je faisais même trajet, il n'y avait absolument pas de problème. Et ouais, c'est un pays qui a des problèmes, il y a des problèmes d'alcoolisme la nuit, donc il ne faut pas sortir la nuit. Donc moi, pour une fille vraiment seule, c'est un pays que je ne recommande pas, même si ça va faire hurler certaines personnes, mais c'est mon avis personnel. Hein. Après, deux filles, par exemple, deux filles ensemble, là, il n'y a pas de souci, parce que à partir du moment où on est un groupe ou accompagné d'un homme, là, il n'y a vraiment aucun problème. Ouais. Mais la fille toute seule, c'est assez...
Mais t'es dur hein, sur ton blog, enfin, on va mettre le lien, les auditeurs iront lire, mais t'es dur. Tu dis que carrément, ils sont carrément insistants, grossiers, oui. Les types, ils se masturbent à côté de toi ou derrière toi, enfin, vraiment, le truc...
C'est des choses que j'ai vues quand j'y ai passé 3 mois l'année dernière. Donc après, c'est pas des choses qui arrivent systématiquement, encore heureux. En fait, je me suis rendu compte que dès qu'on essaie de critiquer entre guillemets un pays, notamment sur les forums, souvent on se fait sauter à la gorge en disant que c'est nous qui nous habillons mal, qu'on est des allumeuses ou des choses comme ça. Alors que moi, j'ai jamais de tenue moulante, jamais les épaules ou les genoux découverts. Enfin, je fais vraiment attention à ça et ça m'a pas empêché d'en être, de voir et d'en être aussi, de subir.
C'est important de le dire, et je suis d'accord avec toi, d'ailleurs c'est vrai, sur les forums de voyage, personne ne critique jamais rien, partant du principe que si ça se passe mal, c'est de notre faute. Non, c'est pas toujours vrai, parfois il y a des pays qui sont compliqués, qui sont difficiles, et je vois bien ce que tu veux dire, et j'imagine que pour une fille toute seule comme ça, même si c'est du harcèlement pas trop dur, mais si c'est tout le temps, ça te fout le voyage en l'air.
Exactement, et puis après mon article aussi, il est vraiment écrit dans le but de prévenir, parce que je trouve que quand on est prévenu, on fait beaucoup plus attention et finalement le voyage se passe beaucoup mieux. Et voilà, donc du coup c'est vraiment dans ce but-là, c'est... Moi, personnellement, je déconseille, mais après, ça se fait complètement et faut juste être préparé et savoir envoyer bouler les...
Tu as une explication à cette histoire de harcèlement des filles par les Sri Lankais? C'est quoi? Ils ont des problèmes, il y a trop d'hommes par rapport aux femmes, ils ont des problèmes sexuels, qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais ça peut être ça, c'est des frustrations, il y a des sociétés où il y a de telles frustrations sexuelles que dès que tu arrives, toi, jeune fille occidentale, pas forcément habillée mal, mais voilà, que tu as l'impression d'être ne fût-ce que les regards regard, parfois ça peut être très, très pesant. Hein. Voilà.
Complètement. Complètement. Et en fait, si tu veux, moi, quand j'ai été au Sri Lanka avant qu'il y ait tout ce tourisme-là, j'avais pas ce genre de problème. Et c'est vraiment, ça a vraiment, moi, je l'ai ressenti à partir de la fin de l'année 2012. Et je pense que j'ai remarqué que ça allait crescendo avec le développement touristique. Et c'est vrai que quand tu as des Russes, par exemple, qui débarquent en mini-shorts et en débardeurs, où on voit tout, qui se baladent en pique-nique dans des petites rues près des plages, forcément, la femme occidentale devient objet de fantasme.
Ça les rend dingues, et puis ils ont une fausse image. Ils se disent, si elle s'habille comme ça, voilà, c'est que c'est bon, je peux y aller. Quoi.
Tu vois,
il y a un choc culturel. À un moment, forcément, ils ne connaissent pas bien notre pays, nous, on ne connaît pas le leur. Et il y a des misunderstandings, comme on dit.
Et c'est pour ça que s'il y a des femmes seules qui veulent aller au Sri Lanka, bien sûr qu'elles peuvent y aller, mais qu'elles soient vraiment vigilantes sur leur tenue, qu'elles ne sortent pas la nuit toutes seules, qu'elles fassent attention à l'alcool. Il y a un gros problème d'alcoolisme chez les hommes, notamment. Donc, c'est des petites recommandations qui peuvent faire qu'une fois qu'on est au courant, le voyage peut bien se passer. Voilà, parce que c'est pas... Le masturbeur fou, c'est pas systématique, mais ça existe. Voilà. Mais
parce que toi qui es allée en Inde, t'as pas ressenti ça du tout en Inde, parce que pourtant en Inde c'est difficile, les rapports hommes-femmes sont très compliqués, très durs, les femmes là-bas vivent une vie pas facile, horrible, c'est moi qu'on puisse dire. Est-ce que t'as ressenti ça aussi en Inde?
J'ai aussi ressenti en Inde, et en fait je trouvais que ça tendait de plus en plus vers cette situation que j'ai subie aussi en Inde, en étant deux femmes seules. Ça se rapproche de plus en plus, malheureusement.
Moi, ma théorie à moi sur tous ces pays-là, c'est une frustration sexuelle masculine. Enfin, je dis ça vaut juste mon avis à moi, mais je me dis c'est pas possible.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Il y a un problème, ils passent mal la puberté, les pauvres gars, quoi. Ils deviennent fous quand ils nous voient arriver. Il y a un peu de ça. Hein.
C'est sûr que là-bas, ils sont mariés, les mariages sont pour la plupart arrangés, même si ça change au fur et à mesure, ils n'ont pas le choix. Et puis, les femmes, c'est pas. Elles n'ont pas forcément non plus choisi leur mari, donc il n'y a pas de passion folle comme on l'a dans nos sociétés occidentales.
Et puis ils n'ont pas eu d'hockey d'Ifoul quand ils avaient 12 ans et demi, qu'est-ce que tu veux?
Voilà, exactement.
Bon, Caroline, merci beaucoup. On envoie les auditeurs donc sur ton blog qui s'appelle Tong et Sri Lanka. On met le lien, bien sûr, sur la page Facebook d'Allo la Planète et sur le move.fr. Merci, et puis la prochaine fois que tu vas là-bas, n'hésite pas, passe-nous un petit coup de fil.
Écoute, avec plaisir, et puis merci à vous.
Je t'en prie, à bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Brefni, bonjour Brefni, bienvenue.
Oui.
Une fois
bonjour
de plus.
Bonjour Eric.
Comment ça va?
Bonjour.
Alors t'es où là? T'es en France? T'es en France là, t'es en France. T'es pas...
Oui, là je suis en France, en Isère. Effectivement, on avait échangé il y a quelques mois maintenant.
Bah oui, parce que tu nous avais raconté cette histoire incroyable. T'avais monté une expédition pour aller nettoyer le sommet de l'Elbrouz. Alors il faut rappeler en deux mots ce qu'est l'Elbrouz. C'est une montagne, c'est en Russie. C'est le plus haut mont d'Europe, non ? C'est pas ça ?
C'est ça, c'est le point culminant de l'Europe, et ça fait partie de la liste des Seven Summits, donc les sept sommets les plus hauts de la Terre pour les sept continents, donc ça, c'est le point culminant du continent européen.
Et pour tous ceux qui tiquent, eh bien non, c'est pas le Mont Blanc, c'est le mont Elbrouz. Après, il y a débat sur est-ce que l'Elbrouz est en Europe ou pas, c'est ça ?
Ouais, bon, c'est vrai qu'on est à une dizaine de kilomètres de la plaque asiatique, mais d'un point de vue vraiment géologique, on est sur la plaque européenne.
Et c'est combien de mètres là-haut ?
Donc le sommet, il culmine à 5642 mètres.
Et donc toi, tu es alpiniste ? Ou je dis une bêtise, non, c'est ça ?
Tout à fait, oui, voilà. Je suis alpiniste, et donc j'ai monté une expédition de nettoyage avec deux autres amis alpinistes, Jean-François Rossillon et Philippe Guachel. Ouais. Philippe Guachel qui était avec moi à l'antenne là, le 1er septembre, quand on est passé sur ton émission pour la première fois. Ouais. Et donc l'objectif...
Juste un mot, vous avez monté la première expédition pour nettoyer le mont Elbrouz. Pourquoi ? Parce que vous connaissiez la situation, vous étiez déjà allé là-bas, vous aviez entendu parler, comment vous en êtes venu à partir pour monter ça, pour dire on va nettoyer ça ?
Ça doit être notre cinquième ou sixième expédition de nettoyage. On a déjà nettoyé plusieurs sommets, la Concagua, le Dolagiri, le Toucal. Et donc en parcourant différents endroits comme ça, on a tout un réseau maintenant d'amis alpinistes. Et il y en a qui revenaient de l'Elbrouz, et qui nous avait signalé comme quoi c'était vraiment vraiment très sale et que ça méritait un nettoyage. Et c'est ce qui a fait qu'on a monté cette expédition-là.
D'accord. Quand on parle de nettoyage, c'est vraiment dû au tourisme et aux alpinistes qui vont là-haut et qui laissent voilà, du matériel, des canettes, tout et n'importe quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, à l'Elbrouz, on associe vraiment les deux populations, la partie alpiniste, qui cherche à gravir ce point culminant de l'Europe. Donc il y a des alpinistes de toutes les nationalités qui se déplacent. On estime à peu près 20 000 alpinistes par an qui tentent l'ascension. Donc là, ça fait quand même, c'est comparable au Mont Blanc. C'est à peu près les mêmes chiffres. Et après, il y a aussi la partie touriste à la journée. Donc c'est surtout pour le coup des Russes, hein, parce qu'on se trouve en Russie. Mmh. Et c'est un peu comme si on était à l'Aiguille du Midi, en prenant des remontées mécaniques, alors c'est des vieux téléphériques, un vieux télésiège, on arrive à monter au camp de base à 3800 mètres d'altitude.
D'accord.
Et alors là, on a énormément de personnes qui viennent, et qui, il n'y a même pas de poubelle hein, sur le camp de base, il faut imaginer, il n'y a pas de poubelle, et on est au pied du glacier, donc là il y a des dameuses et des motoneiges qui proposent des petites sorties, des excursions comme ça pendant une ou deux heures pour monter en altitude, vraiment pour le touriste qui arrive en basket.
Et donc, vous êtes arrivé là-bas, puis si je me souviens bien, ça s'était très bien passé, vous avez été agréablement surpris, les gens sur place vous ont aidé, tout le monde a donné un coup de main, enfin, bonne approche.
C'est exactement ça, ouais. Ouais. Exactement ça que ce soit d'ailleurs par les guides locaux qui nous ont donné un coup de main, notre guide évidemment, mais ceux des autres expéditions. Et puis également, on a eu des coups de main de la part d'autres expéditions, des Allemands, des Japonais, des Indiens, qui étaient là, qui attendaient la bonne fenêtre météo ou qui s'acclimataient et qui avaient un peu de temps libre. Donc, ils nous ont aidés à ramasser les déchets au camp de base. Et du coup, au total, sur la semaine qu'on a passée là-haut, on a descendu 2 tonnes de déchets.
C'est énorme, deux tonnes. Et alors, la question qui me titille dans cette histoire, moi, c'est aussi... Bon, alors, c'est très bien, vous faites ça, vous organisez toute l'expédition, vous nettoyez le mont, que ce soit l'Elbrouz ou d'autres, mais est-ce que derrière, parce qu'il y a quand même un défaut, une déficience des autorités sur place, qui ne font pas d'équipement, qui ne mettent pas de poubelles, qui n'organisent pas les choses, est-ce que une fois que vous êtes passé, ça s'arrange de ce côté-là?
Bah, on l'espère. Dans le cas, par exemple, du Dholagiri, donc qui est un des 14 sommets de plus de 8000 mètres au Népal, où on est allé nettoyer le camp de base 3 années d'affilée en 2001, 2002, 2003. Il fallait 3 ans pour venir à bout. On sait que maintenant, c'est plutôt propre. Les autorités locales ont pris le relais. Et puis, quand un site est propre, il incite moins à ce qu'on le salisse de nouveau. Donc on sait que là-bas c'est plutôt bien, parce que j'ai eu des témoignages de personnes qui sont retournées et qui ont trouvé le site propre.
D'accord.
Et là, sur le cas de l'Elbrouz, on pense vraiment que notre expédition, qui était la première de nettoyage comme ça, elle a vraiment créé un effet perturbant auprès de toutes les toutes les agences, on va dire, locales, les guides russes. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette expédition française qui vient nettoyer sur nos terres, en gros?
C'est un peu vexant.
On peut considérer que c'est un peu vexant, peut-être qu'il y en a certains qui sont comme ça, mais on n'essaye pas du tout de donner de leçons, c'est pas du tout l'objectif, mais ça permet de prendre conscience que, en fait, finalement, ça dérange les touristes. Et donc, du coup, ça vient peut-être perturber aussi un peu leur gagne-pain.
Ah oui, donc du coup, ils réagissent, bien sûr.
Du coup, ils réagissent derrière, ouais.
Alors, ce qui se passe aussi, pourquoi tu es là, c'est que derrière, ça a bien marché, votre histoire. Vous avez eu pas mal d'articles dans la presse. Vous avez été contacté par le consulat de Russie à Lyon pour monter quoi, une soirée, c'est ça?
Ouais, alors effectivement, le consulat de Russie à Lyon, on était en contact avec eux dès le début, en amont d'ailleurs, pour établir nos visas. C'est assez compliqué. La plus grosse complication qu'on a eue pour aller
Attends, bouge un peu. Excuse-moi, mais on est en train de te perdre. Là, je sais pas pourquoi il y a des bruits bizarres. Remets-toi où t'étais il y a 5 minutes.
Si j'ai pas trop bougé. Là, ça va mieux ou...
Ouais, là, ça va. Ouais, vas-y.
Ouais. Oui, ce que je disais, c'est que la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée quasiment sur l'expédition, c'était l'obtention des visas. Une fois qu'on était sur place, tout était parfaitement fluide en Russie, mais alors pour obtenir les visas, c'était pas évident. Donc on a été en contact avec le consul de Russie à Lyon, et il nous a conviés à une soirée du Nouvel An russe qui se déroule en janvier à Lyon.
D'accord.
Voilà, donc oui. soirée où on devrait normalement présenter l'expédition, mais bon, c'est pas certain qu'on puisse participer parce qu'il faut voir un peu de logistique si on peut intervenir. Vraiment, c'est une soirée plus festive qu'autre chose, quoi. Donc je sais pas si on pourra vraiment présenter notre projet.
Et puis il y a aussi, j'ai vu, il y a une soirée au mur de Lyon, je sais pas ce que c'est, il va y avoir une expo photo et puis un film. Voilà, donc ça se passe bien pour vous.
La vidéo, elle est bien sortie. Vous pouvez la voir sur notre page Facebook. Là. C'est Facebook Elbrouz Nettoyage 2014. Si vous tapez Nettoyage Elbrouz sur Facebook, vous allez trouver. Et donc là, on a une petite vidéo qui a été faite par une boîte de production professionnelle. Mmh. Très très bien, une courte vidéo de 3 minutes et demie. Et puis on fait effectivement une conférence au Mur de Lyon. Alors le Mur de Lyon, c'est la plus grande salle d'escalade de France qui se trouve à Lyon. Et on fait une soirée Elbrouz, donc le vendredi 12 décembre, c'est ouvert au public.
D'accord, bah écoute, tiens-nous au courant de tout ça, merci de donner des nouvelles, on met un lien bien sûr avec votre page Facebook, votre site, tout ça, pour aller voir le film et en savoir plus sur vous. Merci beaucoup Brefny, merci, bravo.
Merci, puis trier tous vos déchets aussi chez vous, hein. Le but c'est de sensibiliser également les auditeurs au recyclage chez soi en France.
Ça marche, merci Brefny, à bientôt, ciao. Dans un instant, Lucille en Malaisie, on t'entend Lucille finalement, on a eu du mal à te joindre, t'es là ? Lucille ?
Oui, je suis là, ouais.
Ah bah oui, parce qu'elle, on l'a, Lucille. Elle sera avec nous dans un instant depuis Kuala Lumpur. Et puis Béatrice aux États-Unis qui vit dans le Missouri, le même état que la ville de Ferguson qui connaît des émeutes en ce moment.
Émotions censurées, j'en ai plein le conteneur. M'accroche au cendrier, m'arrange par les maxillaires. Section rythmique, section de combat, effet secondaire. C'est qu'elle, c'est tout ce qui me reste, caractère.
Tête brûlée, j'ai plus qu'à m'ouvrir le canevaire. N'essayez pas mes femmes, je m'incendie. À la main, l'usure sortirait que je suis pas d'équerre. Vol de nuit sur l'Antarctique, j'attends la prochaine guerre. Jamais d'escale, jamais de contact avec l'ordinaire. Perdu la boussole, le compas, erreur volontaire. Volontaire.
Des canyons, de frôler l'éphémère.
Si tu touches, si tu craches, tu rentres dans les légendaires. Réalité, réalité, punition exemplaire. Si c'est pour jouer les fugitifs, moi je suis volontaire.
Allô la planète, sur Internet, le premier réseau vivant.
Bonjour Lucille, donc à Kuala Lumpur, c'est ça ?
C'est ça, ouais, à Kuala Lumpur en ce moment.
C'est comment ?
C'est différent de tout ce que j'ai fait pour le moment. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nouvelle découverte, en fait.
Ouais, parce que
c'est grand.
C'est grand. C'est quoi ? C'est très moderne, non ?
Ouais, il y a un petit peu de ça. J'ai l'impression que ça avait un petit peu. Voilà. Enfin, il y a une économie émergente, on va dire, une sorte de nouvelle Malaisie où voilà, ça construit beaucoup de centres commerciaux, notamment.
Ouais.
Et d'un côté, on sent encore que, notamment à Kuala Lumpur, qu'il y a encore beaucoup voilà, de quartiers où la pauvreté se ressent, se voit clairement dans les rues. Et donc voilà, c'est un peu. On sent que c'est un pays où il y a encore beaucoup d'authenticité et en même temps, il y a des gros groupes qui s'installent. Donc c'est des Burger King, des McDo, des Starbucks, toutes les chaînes de ce genre qui apparaissent aux quatre coins des rues. Quoi. Donc,
Mais ça, c'est le côté Asie du Sud-Est qui est marrant. C'est à la fois, tu as des grands buildings hyper modernes, un côté 21e siècle, et puis en même temps, en bas des buildings, il y a toute une vie qui est restée. Il y a du monde, ça grouille, il y a des odeurs. Ils ont fait un vrai mélange assez étonnant. On va voir ce qui se passe plus tard. Et alors toi, parce que je relisais le mail, les échanges qu'on avait eus, je te demande si on peut te joindre en Malaisie. Tu dis, écoute, moi j'ai pas grand chose à vous dire parce que tout ce que j'ai fait, c'est que j'arrive de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Nouvelle-Calédonie. Maintenant je suis en Asie du Sud-Est. t'es parti depuis combien de temps?
Ça va faire bientôt un an en fait. Donc, je suis partie à l'origine pour la Nouvelle-Zélande. Je suis partie en working holiday visa là-bas. Donc, je suis restée 10 mois. Ce qui m'a laissé. Enfin, c'est ça, on a un visa d'un an. Donc, moi, mon but c'était vraiment de m'immerger dans le pays au maximum, de travailler sur place, de cohabiter aussi avec des kiwis, de vivre vraiment l'expérience. Et puis au final, au bout de 10 mois, j'ai fait le tour du pays et j'en suis contente. C'est pas comme l'Australie où je pense il faut finalement plusieurs années avant d'en faire le tour. La Nouvelle-Zélande, ça se fait bien et disons que je suis pas le seul backpacker là-bas. Et donc c'est un petit peu une communauté grandissante. Il y a beaucoup de monde, il y a de quoi faire, il y a de quoi voir. Et comparativement à tout ce que j'ai fait après, finalement, la Nouvelle-Zélande, c'est très calme.
très calme. C'est ce que j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a personne. C'est le pays où il y a plus de moutons que d'habitants.
C'est ça. Il y a un habitant pour 10 moutons là-bas. Donc.
Un habitant pour 10 moutons pas.
C'est ça.
C'est un peu problématique pour avoir des conversations, tout ça, ou non?
ça dépend des coins. Donc il y a des grosses villes. Donc il y a Auckland. Après, Auckland, ça reste vraiment la plus grosse ville. Je crois que c'est 3/4 des habitants du pays quand même qui vivent à Auckland. Donc le reste du pays est assez assez calme. Et puis ça reste des villes à taille humaine, donc ce qui est assez agréable. Et ce qui est intéressant aussi en Nouvelle-Zélande, c'est que dès lors qu'on quitte la ville, on est directement en pleine nature, on se retrouve à des endroits juste incroyables, dans les paysages dont on pourrait rêver toute sa vie, on y est, on vit au cœur de la Nouvelle-Zélande. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ça, me retrouver finalement seule. Je voyageais avec mon van en fait, donc j'ai vraiment fait le tour.
Tu l'as acheté
pendant 10 mois en van, le supposé aussi.
Tu l'as acheté le van? T'as acheté un van là-bas et tu l'as revendu?
J'ai acheté mon van. C'est ça, je l'ai revendu avant de partir, donc là, il y a quelques mois. Et donc c'est un bon moyen de locomotion, finalement. Ça te permet de faire le tour des deux îles. Donc, c'est deux îles, donc il faut quand même prendre le ferry, finalement, avec le véhicule pour passer de l'une à l'autre. Mais ce qui te permet de faire voir un maximum de choses, parfois de te retrouver aussi dans des endroits improbables où tu ne serais pas allé. Il faut sortir un peu des circuits touristiques. Et puis le côté vraiment sympa, c'est que tu es en van, tu te poses, tu arrives des fois tard la nuit, et puis tu sais pas où t'es, et tu te réveilles le lendemain, et finalement tu es dans un endroit majestueux, et c'est vraiment génial. Quoi.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai regardé des photos sur ton blog, il y a une photo bizarre avec des dizaines de soutiens-gorge accrochés à une clôture au milieu de rien, tu vois, une clôture pour les champs, quoi, un truc pour les animaux, et là il y a plein de soutiens-gorge. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors, ça arrive régulièrement en Nouvelle-Zélande. C'est un petit peu, comme je disais, c'est vraiment le pays de la baroude, le pays des voyageurs, notamment en van, beaucoup de stops aussi. Et finalement, le long des routes, on retrouve beaucoup de barrières, voilà, de zones agricoles où les gens accrochent soutien-gorge, chaussures, tout ce qui passe, des clés des fois. C'est un petit clin d'œil pour les gens qui font la route et pour leur rappeler voilà, que les gens sont là, qu'ils pensent à eux et bon voyage, quoi.
C'est une petite blagounette entre backpackers, quoi.
C'est ça, c'est ça.
Tu passes, toi aussi, laisse ton soutien-gorge.
Exactement, petite... ouais.
D'accord.
Donc, ça, c'est la barrière à soutien-gorge, elle se trouve donc près de Wenaka, à Cardrona-Vallée. Et régulièrement, quand même, ils en enlèvent, parce qu'à force, l'agriculteur, il se retrouve avec plein de soutien-gorge sur sa barrière. Donc c'est... bon, c'est rigolo, mais voilà, quoi. Donc, ils font le vide, ils trient, je sais pas ce qu'ils en font après, mais en tout cas,
ça n'empêche pas. T'en as laissé un, toi?
Non, même pas.
Non, malheureusement. C'est ta petite trace.
J'allais skier, écoutez, c'est déjà bien.
Bon, sinon, après, t'as fait une balade donc en Australie et en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'était bien. C'est cher, non? Ça doit être cher, après, quand on arrive là-bas.
Ouais, c'est effectivement cher. Donc, c'est en France-Pacifique. Et donc, oui, la vie est chère. Mais en même temps, moi, j'avais la chance d'avoir des amis sur place qui m'ont hébergé. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils m'écoutent. Je les remercie encore pour ça. Et donc, enlever ça déjà du budget, c'est vraiment bien parce que la nourriture et l'accommodation, donc l'hébergement, reste très cher, quoi. Donc, quand on a quelqu'un qui peut vous accueillir, qui peut vous faire même découvrir le pays, c'est vraiment un plus.
Ça doit faire bizarre
donc,
quand...
Mais après, ça m'a pas empêché.
Non, ça doit faire bizarre, je disais, quand tu te balades comme ça dans le monde, puis tu arrives en Nouvelle-Calédonie, tu te retrouves en France, finalement. Tout à coup, retour en France, ça doit faire drôle.
Retour aux racines sans vraiment être les racines. C'est vrai que, dis-moi, passer en Nouvelle-Zélande où je voyage seule, donc c'est vrai que je parle anglais constamment. Et d'arriver à l'aéroport et de voir tous les gens qui parlent français, effectivement, ça m'a fait un petit choc. Et puis, ça reste français, mais en même temps, en Nouvelle-Calédonie, on est loin de la France, on est loin de la métropole. Et donc, on se retrouve isolé à l'autre bout du monde. Et c'est agréable aussi parce qu'on est sur cette île, on vit en communauté, et les gens sont très relax là-bas.
Ah ouais.
Le dicton, c'est... Ouais, c'est casse pas la tête. C'est comme dirait mon ami Hugo, c'est vraiment une petite Jamaïque. C'est vraiment, moi, le constat que j'en ai fait là-bas. Les gens fument beaucoup de ganja, fument beaucoup, beaucoup. Mais ça fait partie de leur quotidien. Ils sont très relax, très peace. Et puis, profitent de la vie. C'est ça qui est intéressant. Ouais.
D'accord, donc je note Nouvelle-Zélande, les moutons et les soutiens-gorge. Nouvelle-Calédonie, la ganja. D'accord, c'est pour mes petits clichés à moi. Et donc là, t'arrives dans un nouveau monde. C'est fini l'Occident de l'autre bout du monde, t'arrives en Asie du Sud-Est, là. C'est un sacré changement. Ah, et c'est là que Skype devient un tuyau avec de l'eau dedans, comme ça arrive parfois. Écoutez, l'eau de Skype. Remets-moi l'eau de Skype pour rigoler. Non, il n'y a plus de l'eau de Skype.
Allô ?
Oui, bon, t'avais perdu. Lucille ?
Ouais, désolé.
C'est pas grave. Et de toute façon, il faut qu'on s'arrête là, Lucille. On se rappelle quand t'auras un peu plus découvert l'Asie du Sud-Est. On te laisse.
C'est ça, pour l'instant, je suis entrée en Malaisie via Singapour. Il me reste encore la Thaïlande à faire, donc beaucoup de choses à voir. Et dans ce cas-là, on se recontacte après.
Ça marche. Bonne route, amuse-toi bien, pense à nous de temps en temps. Bon voyage.
Bien sûr.
Salut Lucille.
Salut.
À bientôt, ciao. Béatrice, donc, allô Béatrice.
Allô, bonjour.
Bonjour Béatrice, on s'est déjà parlé Béatrice.
Oh, on s'est parlé il y a quelques années peut-être.
Mais il y a un petit bout de temps maintenant, bah oui.
Voilà.
T'es professeur de français ?
Oui.
À Joplin, c'est dans le Missouri aux États-Unis.
Voilà.
Ça fait longtemps que t'es là-bas ?
Oh, ça fait maintenant presque 10 ans.
Ouh là là, ça y est, t'es devenue américaine ?
Pas encore, non.
Non ?
Non, pas vraiment, parce que c'est difficile d'oublier ses racines, d'une part, et ouais. Puis d'avoir certaines coutumes que j'ai gardées de toute façon. Oui.
Ah, t'as pris un petit accent. C'est marrant parce que les Français qui s'installent aux États-Unis. Non, mais je vais te dire un truc. Les Français qui s'installent aux États-Unis, au bout d'un moment, ils parlent français avec l'accent américain, comme des Américains.
Oui, c'est possible parce que ça fait très très longtemps qu'en fait que je n'ai pas parlé français. Puis quand je parle français à des gens ici, j'essaye de parler lentement. Donc.
Ah ouais, on te comprend bien. On est content parce que nous, tu sais, on parle n'importe comment, donc on te comprend bien. Dis-moi, donc Joplin. Si on regarde sur la carte, c'est le Missouri, c'est le centre à peu près des États-Unis, centre-sud, on va dire.
C'est le centre, oui, ouais. C'est le centre, totalement.
C'est l'État de Ferguson.
Voilà.
Donc c'est là qu'il y a eu des émeutes. Alors si on rappelle l'histoire en deux mots, ça s'est passé en août dernier, c'est ça, quand ce policier a tué un jeune garçon.
Voilà, oui.
Alors, il y a plusieurs versions des faits. Toujours est-il qu'il y a un policier qui a tiré sur un gars qui n'était pas armé. Il l'a tué de 6 balles, dont 2 dans la tête. Et puis là, récemment, c'était hier ou avant-hier, un grand jury populaire. Alors, peut-être qu'il faut expliquer aux auditeurs ce que c'est que cette histoire de grand jury. C'est un grand jury qui décide si le policier doit être jugé ou non, c'est ça? Et après, voilà. Après, éventuellement, on le juge. Il y a une première étape avant le jugement, alors. C'est ça?
C'est ça, oui. C'est une sorte d'enquête, en quelque sorte, pour savoir si l'État va le poursuivre et pour savoir donc s'il y aura un procès, quoi.
D'accord, donc là il a été décidé qu'il n'y aurait pas de procès. Bien sûr, il faut rappeler que le policier est blanc et la victime est noire. Et il y a eu des émeutes à Ferguson. Est-ce que ça se ressent, toi, chez toi, Joplin? L'ambiance est comment?
Non, pas tellement, parce qu'en fait ici c'est une petite ville et la communauté afro-américaine n'est pas très très large. C'est vraiment une minorité. Il y a eu beaucoup de réactions, par contre, dans les réseaux sociaux et en ligne, des deux communautés. Ça a été relativement un choc, alors que c'est un fait qui arrive, je dirais pas tous les jours, mais assez souvent. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Celui-ci a été davantage médiatisé.
Est-ce que ça arrive? Oui, tu dis que ça arrive souvent. C'est presque, j'allais dire une habitude, mais c'est vrai que la communauté noire aux États-Unis a la vie dure, quoi, avec la police.
Je pense que malgré tout, c'est vrai. Il y a toujours deux côtés dans une histoire. Ouais, ouais. C'est vrai que dans ce cas-là, je pense qu'il y a quand même eu une agression, mais c'est vrai que la police a tendance à réagir assez vite d'une manière générale. Mais dans une société où on peut aller en Afrique pour faire un safari, on vous donne une arme qui va tirer sur un rhinocéros qui charge et qui va le neutraliser en quelque temps. Bon, c'est peut-être un exemple un peu idiot, mais je pense qu'il faudrait équiper les gens avec des armes qui ne tuent pas, mais qui neutralisent l'adversaire.
Mais est-ce que le problème, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors il y a un problème clairement un problème de racisme finalement entre noirs et blancs aux États-Unis depuis toujours. T'es d'accord avec moi? Ça fait 10 ans que t'habites là-bas. Ça reste compliqué.
Bon, ça reste très compliqué parce qu'en fait les noirs ici sont arrivés comme esclaves en fait. Donc il y a un contentieux qui remonte à il y a très longtemps et les deux communautés sont vraiment en parallèle. Il y a une grande tension.
Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 60, il y avait une véritable ségrégation.
Il y avait une véritable ségrégation. Il y a eu des lynchages jusqu'aux années 60. Il y a eu beaucoup de progrès de fait, en fait. Ce n'est pas négatif à tous les niveaux, mais c'est très difficile et on catégorise énormément les gens. Par exemple, si vous remplissez n'importe quel formulaire, on va vous demander votre race. Ce qui n'est pas concevable, je pense pas en France, je crois que c'est toujours interdit de le faire. Mais si vous demandez, je sais pas, pour une aide au logement et tout cela, on va vous demander si vous êtes blanc ou noir. Donc en fait, je pense que il faudrait travailler pour une réconciliation, une vraie réconciliation.
Mais si je rappelais qu'il y avait une ségrégation quasi officielle jusque dans les années 60, c'était juste pour bien nous montrer que tout ça est récent. Voilà, jusque dans les années 60, il y avait encore des États aux États-Unis où il y avait dans les bus publics des places pour les noirs, des places pour les blancs. Il y avait des toilettes pour les noirs, des toilettes pour les blancs. Enfin, c'était une espèce d'apartheid. Et je rappelle que c'est les années 60 parce que je pense que il va falloir du temps, beaucoup de temps. Bon, il y a un président noir, mais il va falloir beaucoup de temps pour.
Je pense qu'il faudra énormément de temps pour que cela s'arrange. Et évidemment, la violence qui a suivi l'annonce de, je crois que c'était lundi ou quelque chose comme ça, n'arrange rien, bien entendu. Ah, il y a des scènes de pillage et ça donne de l'eau au moulin aux gens qui critiquent tout cela.
Alors, il y a un problème, c'est vrai, de vie entre les deux communautés. Et puis, moi, j'identifie un autre problème aussi dans cette histoire, c'est les armes. Comme tout le monde est armé aux États-Unis, parce qu'en France aussi, il ne faut pas se bander les yeux. En France aussi, on en parlait hier, parce qu'il y a un reportage qui a été fait là-dessus sur l'immigration et le racisme en France. En France aussi, si tu es noir ou arabe, tu vas te faire contrôler bien plus que si tu es français. Tu auras plus de problèmes dans le métro, on va te contrôler tes papiers tout le temps. Donc, il y a aussi des problèmes comme ça. Mais on n'est pas armé en France. Parce qu'aux États-Unis, États-Unis, comme il y a beaucoup d'armes en circulation, est-ce que ça ne crée pas une tension de fait? Les flics sont beaucoup plus tendus, ils ont peur. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde tire sur tout le monde, quoi. Il y a ce côté
voilà,
cow-boy.
Tout le monde. Bon, que le policier ait eu peur, je le comprends tout à fait, parce que, bon, évidemment, tout le monde est potentiellement armé. Et alors, on dit ici que, bon, ce sont pas les armes qui tuent les gens, ce sont les gens qui tuent les gens. Ouais. C'est un proverbe qu'ils ont, mais comme disait Mark Twain, disait, oui, mais les armes aident beaucoup quand même. C'est vrai que le fait d'être armé, moi, ça me rassure pas, personnellement.
Mais non, mais forcément, s'il y a des armes... Tu sais, il y avait, je crois que c'est Michael Moore qui avait fait un reportage il y a pas très longtemps où il comparait, je crois que c'est Toronto et Chicago, enfin deux villes qui sont chacune d'un côté de la frontière au Canada et aux États-Unis, deux villes comparables. Et il y avait eu deux meurtres dans toute l'année à Toronto et des dizaines de l'autre côté. Et la seule différence entre les deux villes, finalement, c'est les armes qui sont légales d'un côté et pas légales de l'autre. Donc c'est évident que ça entraîne des meurtres, ça entraîne des violences. Et je crois qu'il y a plus de 300 millions d'armes officiellement en circulation aux États-Unis, ce qui veut dire que tout le monde...
Oh, ça ne me surprendrait pas. Et ouais. Puis ils tiennent beaucoup au privilège d'avoir une arme. C'est dans leur constitution et c'est ce qu'ils... C'est ce qu'ils avancent pour le justicier. Bon, je comprends, c'est dans leur constitution, mais c'est vrai que je crois que ça augmente les tensions, puisque bon, si vous supposez que l'adversaire est armé, vous allez être beaucoup plus agressif, bien entendu.
Ah oui, donc ça fait une police forcément sur les dents. Mais d'ailleurs, moi, j'ai traversé 2-3 fois les États-Unis
en voiture. La police est suréquipée.
Ah, mais tu sais, quand moi, j'ai traversé les États-Unis 2-3 fois en voiture, je me suis fait arrêter plusieurs fois. C'est vrai que quand tu vois le flic arriver vers toi,
c'est imposant.
Tu sens qu'il est tendu. Le type, il a la main sur le flingue, il te fait signe de pas bouger. Toi, t'as intérêt à garder tes deux mains sur le volant et à pas moufter. Tu sens qu'il va tirer le type, quoi, si tu fais la moindre...
Exactement. C'est vraiment très intimidant. C'est la première impression que j'ai eue quand j'ai mis les pieds sur le sol américain. C'était la police, les gens à l'aéroport étaient tellement armés. Ça fait, pour moi, ça me fait peur. Mais moi, je suis pacifiste. Je ne comprends pas. Je ne voudrais même pas avoir servi chez moi.
Oui, non, mais ça fait peur. Et j'aurais qu'une trouille aux États-Unis, c'est d'être pris dans un enchaînement judiciaire. Tu sais, avoir des problèmes avec la police. J'aurais vraiment les jetons.
Oui, il faut faire très attention.
Ouais. Faut faire gaffe.
Et puis, il y a des choses, par exemple, que les Européens ne savent pas. Par exemple, si vous vous faites arrêter par la police, il ne faut surtout pas sortir de la voiture.
Jamais. Si on
jamais,
puisse,
jamais. Parce que c'est un signe que vous êtes agressif. Mais évidemment, toutes ces tensions augmentent parce que c'est une escalade générale. Moi, je pense que avec les moyens qu'on a, on pourrait neutraliser les adversaires et les criminels avec quelque chose qui ne soit pas létal. J'en suis convaincue. Et ça éviterait des cas comme cela. Et bon, il est peut-être évident que ce jeune homme aurait été mis en prison, mais il n'aurait pas été tué.
Voilà, ouais. Béatrice, merci beaucoup. Merci pour cette discussion de quelques minutes sur les États-Unis. Et puis à la prochaine fois. Merci Béatrice, à bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Tina. Allô, oui. Tina, en Bolivie. Je suis désolé, il ne nous reste que 2 minutes, Tina. Mais comme tu es passé il n'y a pas longtemps, je rappelle en 2 mots. Donc vous êtes avec AFID, c'est Globe Trotard. Vous êtes en Bolivie. Vous travaillez dans tous les pays que vous traversez dans le monde pour des compagnies de spectacle. Hein, vous donnez un coup de main. Et là,
oui,
tu nous as renvoyé un message. Qu'est-ce qui se passe? Vous participez à un concours?
On avait une bonne nouvelle à partager.
Ah, salut à Philippe.
Oui. en fait, on a été élus par le journal La Voix du Nord pour être les projets reconnus dans la région Nord, en fait.
Ouais.
Et du coup, on est 5 projets sélectionnés dans la catégorie anonyme. Et maintenant, c'est au lecteur de voter pour le projet qu'il préfère.
Ah.
Et donc, du coup, on espère bien gagner, parce que si on arrive à remporter ce concours, bah, ça nous fera une belle vitrine pour notre projet. Puis ça nous permettra aussi de continuer. Et voilà, c'est une belle récompense. Donc,
La Voix du Nord, c'est un journal d'où c'est où? C'est à Lille?
Oui, voilà, c'est le Journal du Nord,
D'accord.
C'est le Journal du Nord, et comme AFID est de là-bas, et que moi, j'ai étudié aussi dans le Nord,
D'accord.
Alors, on a tous les deux un ancrage là-bas.
Alors, le mot d'ordre pour tout le monde, s'il vous plaît, on va mettre le lien sur notre page Facebook à nous et sur lemouv.fr. Vous allez sur le site et vous votez pour Globe Trottart, Afid et Tina. Voilà, comme ça, ils pourront continuer leur balade. Ça prend quelques secondes et on ne vous demandera pas votre numéro de carte de crédit, c'est promis.
Exactement.
Bon, ben on vous rappelle très vite, on met le lien et on fait la promo. Allez donc voter pour Afid et Tina et pour Globe Trottart sur le site de La Voix du Nord. Ça marche tous les deux. Désolé, on est un peu à la bourre aujourd'hui, on se rappelle très vite. Je vous embrasse.
Salut, salut.
Bonne route. Bisous. Et on met les liens, bien sûr, avec Globe Trottart et La Voix du Nord sur notre page Facebook et sur lemouv.fr. Et quant à nous, on se retrouve pour refabriquer 60 minutes d'Allô la planète avec vous tous dans le monde dans 23 heures.